Tout le monde prit place dans la salle de réunion du cabinet de Howard Gould, qui, si elle était plus petite que celle de The Good Wife, Holly avait regardé les 7 saisons et était passée maintenant à la suite, était quand même très agréable. Tableau de bon goût, table en acajou verni, fauteuil en cuir. Madame Maitland était présente, effectivement, assise à la droite de Monsieur Gould, qui trônait en bout de table, comme toujours. Il lui demanda qui gardait les enfants. Marcy lui adressa un sourire sans joie.
Lukesh et Chandra Patel se sont portés volontaires. Leur fils jouait dans l'équipe de Terry. D'ailleurs, Baby occupait la troisième base quand...
Elle se tourna vers l'inspecteur Anderson.
Quand vos hommes sont venus l'arrêter, Baby était effondré. Il n'a pas compris.
Anderson croisa les bras, sans rien dire. Son épouse posa la main sur son épaule et lui murmura quelque chose à l'oreille. Anderson hocha la tête.
« Nous allons pouvoir commencer, » dit Howie. « Je n'ai pas établi d'ordre du jour, mais peut-être que notre visiteuse aimerait commencer. Holly Gibney est une détective privée engagée par Alec pour enquêter sur une affaire survenue à Dayton, en partant de l'hypothèse que les deux affaires étaient liées. Nous sommes là, entre autres choses, pour essayer de déterminer si tel est le cas.
« Je ne suis pas détective privée, » rectifia Holly. « C'est mon collègue, Peter Huntley, qui possède une licence de détective. Notre société s'occupe surtout de saisies et de détenus en cavale. Il nous arrive cependant de mener des enquêtes criminelles quand on ne risque pas de se faire réprimander par la police. On a d'excellents résultats avec les animaux perdus, par exemple. »
Elle se trouvait lamentable et sentit le sang lui monter au visage.
« Mademoiselle Gibney est un peu trop modeste, » dit Alec. « Je crois savoir que vous avez participé à la traque d'un fugitif violent nommé Maurice Bellamy. »«
C'est mon équipier qui s'est occupé de cette affaire. Mon premier équipier,
Bill Hodges.
Depuis, il est décédé, comme vous le savez, monsieur Bellé, Alec. »«
Oui, toutes mes condoléances. »
Le latino qu'Anderson avait présenté comme étant le lieutenant Yunel Sablo de la police d'État se racla la gorge.
« Il me semble, » dit-il, « que Monsieur Hodges et vous avez également été impliqués dans une affaire d'attentat terroriste avorté, préparée par un jeune homme nommé Hartsfield. Et c'est vous, Mademoiselle Gibney, qui l'avez personnellement arrêté avant qu'il puisse provoquer une explosion dans un auditorium plein. Elle aurait pu tuer des milliers de jeunes gens. »
Un murmure parcourut la table. Holly sentit son visage s'enflammer un peu plus. Elle aurait aimé leur avouer qu'elle avait échoué, qu'elle avait seulement mis fin temporairement au projet meurtrier de Brady, et qu'il était revenu afin de semer la mort avant d'être neutralisé pour de bon. Mais ce n'était ni le moment ni le lieu. Le lieutenant Sablo n'avait pas fini.
« Je crois même que vous avez été distingué par la municipalité. »
« Nous sommes trois à avoir été distingués, et, à vrai dire, nous avons juste reçu une clé en or et un pass pour prendre le bus. » « Valable 10 ans. »
Holly regarda les visages autour d'elle, furieuse de sentir qu'elle rougissait encore comme une gamine de 16 ans.
« C'est de l'histoire ancienne. Pour en revenir à l'affaire du jour, je préférerais garder mon rapport pour la fin, avec mes conclusions. »«
Comme le dernier chapitre d'un vieux roman policier anglais, »
dit Howie Gould, tout sourire.
« Nous allons vous raconter ce que nous savons. » Et ensuite, vous vous lèverez pour nous stupéfier en nous expliquant qui a fait le coup et comment.
« Bonne chance, » ironisa Samuels. « Le simple fait de penser à l'affaire Peterson me donne mal à la tête. Selon moi, nous détenons la majeure partie des pièces, » dit Holly. « Mais elles ne sont pas toutes sur la table. En fait, je ne cesse de repenser à ce vieux dicton. Et je suis sûr que vous allez trouver ça idiot. » À propos des torchons et des serviettes. Mais maintenant que les torchons et les serviettes sont mélangés...
« Sans oublier les mouchoirs et les napperons, »
dit Howie. Devant l'expression de Holly, il s'empressa d'ajouter
« Je ne vous taquine pas, Mademoiselle Gibney. Je suis d'accord avec vous. Mettons tout sur la table. Alors, qui commence ?»«
Yunel, » dit Anderson, « puisque je suis en congé administratif. »
Yunel posa sur la table un attaché-case d'où il sortit son ordinateur portable.
« Monsieur Gould, Pouvez-vous me montrer comment connecter cet ordinateur au projecteur ?
Howie s'exécuta, sous le regard attentif de Holly, qui voulait être sûre de bien faire quand viendrait son tour. Une fois les bons câbles branchés aux bons endroits, Howie baissa légèrement l'intensité de l'éclairage.
« Bien, » dit Yunel. « Pardonnez-moi, mademoiselle Gibney, si je vous coupe l'herbe sous le pied en évoquant des choses que vous avez pu découvrir à Dayton. »«
Aucun problème. » »«
Je me suis entretenu avec le capitaine Bill Darwin, de la police de Dayton, et avec le sergent George Highsmith, de la police de Trotwood. » Quand je leur ai annoncé que nous avions une affaire similaire sur les bras, sans doute liée par une camionnette volée qui se trouvait à proximité des deux scènes de crime, ils ont exprimé le désir de nous aider et, grâce à la magie des télécommunications, tout devrait être là, si ce gadget fonctionne, évidemment.
Le bureau de l'ordinateur de Yunel s'afficha sur l'écran mural. Il cliqua sur un dossier intitulé « Holmes ». La première image représentait un homme vêtu d'une combinaison orange de détenu. Il avait des cheveux auburn courts et une barbe de quelques jours. Ses yeux légèrement plissés lui donnaient un air soit sinistre, soit simplement hébété face au tournant brutal qu'avait pris son existence. Holly avait vu cette même photo d'identité judiciaire en première page du Dayton Daily News, datée du 30 avril.
« Voici Heath James Holmes. » annonça Yunel. 34 ans, arrêté pour les meurtres d'Amber et de Jolene Howard. J'ai également des photos des corps des deux fillettes, mais je ne vous les montrerai pas. Vous en perdriez le sommeil. Jamais je n'avais vu de telles mutilations.
Silence des sept autres personnes réunies autour de la table. Jenny pinçait le bras de son mari. Marcy regardait fixement le portrait de Holmes, comme hypnotisé, une main sur la bouche.
À l'exception d'une arrestation pour une virée à bord d'un véhicule volé quand il était mineur et quelques contraventions pour excès de vitesse, Holmes avait un casier judiciaire vierge. Ses évaluations professionnelles biannuelles, au Kindred Hospital tout d'abord, puis à l'Institut Iceman, étaient excellentes. Ses collègues et les pensionnaires parlaient de lui en termes élogieux. Les commentaires les plus fréquents sont « toujours sympathiques, véritablement attentionnés et se mettent en quatre ».
« Les gens disaient la même chose de Terry », murmura Marcy.
« Cela ne veut rien dire », rétorqua Samuels. « Ils disaient la même chose de Ted Bundy. »
Yunel poursuivit.
« Holmes avait annoncé à ses collègues qu'il projetait de passer une semaine de vacances avec sa mère à Regis, une petite ville située à 50 kilomètres de Dayton et de Trotwood. Au milieu de cette semaine, les corps des filles Howard ont été découverts par un postier qui effectuait sa tournée. En apercevant un important vol de corbeaux au-dessus d'un fossé à moins de 2 kilomètres de la maison des Howard, il a décidé d'aller voir de plus près. Il doit le regretter aujourd'hui. »
Il cliqua de nouveau, et les visages des fillettes remplacèrent les yeux plissés et la barbe naissante de Heath Holmes. Cette photo avait été prise dans une kermesse ou un parc d'attractions. Holly distinguait un manège à l'arrière-plan. Amber et Jolene souriaient et brandissait des barbes à papa comme des trophées.
Loin de moi l'idée de rejeter la faute sur les victimes, mais les filles Howard n'étaient pas faciles. Mère alcoolique, père aux abonnés absents, foyer à très faible revenu dans un quartier pourri. L'école les avait déjà cataloguées comme élèves à risque, et elles avaient séché les cours à diverses reprises, comme ce jour-là, le 23 avril, sur le coup de 10h du matin. Amber était en permanence, et Jolene a prétexté le besoin d'aller aux toilettes. Sans doute avait-elle tout manigancé.
Les évadés d'Alcatraz,
commenta Bill Samuels. Personne ne trouva ça drôle. Yunel enchaîna.
Elles ont été vues peu avant midi dans une petite épicerie-bar, à environ 5 rues de l'école. Voici une photo provenant des images de vidéosurveillance de la boutique.
Le cliché en noir et blanc, contrasté et net, semblait sorti d'un vieux film policier, pensa Holly. Elle observa les deux blondinettes. L'une tenait des bouteilles de soda, l'autre des barres chocolatées. Elle portait un jean et un t-shirt, et semblait mécontente. La fille aux barres chocolatées pointait un doigt menaçant, bouche grande ouverte, front plissé.
L'employé savait qu'elles auraient dû être à l'école, et il a refusé de leur vendre quoi que ce soit,
expliqua Yunel.
Sans blague, dit Howie. On entend presque l'aîné le traiter de tous les noms.
En effet, dit Yunel, mais ce n'est pas le plus intéressant. Regardez dans le coin supérieur droit de l'image. Sur le trottoir, juste derrière la vitre. Attendez, je vais zoomer un peu.
Marcy murmura quelque chose. Seigneur, peut-être.
C'est lui, n'est-ce pas ?
Dit Samuels.
C'est Holmes, en train d'observer les filles.
Yunel acquiesça. Cet employé est la dernière personne qui a déclaré avoir vu Amber et Jolene vivantes. Mais elles ont encore été filmées par une caméra ensuite.
Il fit apparaître une autre photo, tirée d'images de vidéosurveillance, sur l'écran installé à l'avant de la salle. L'œil électronique de la caméra était braqué sur un groupe de pompes à essence. L'horloge dans le coin indiquait 12h19, 23 avril. Holly songea qu'il devait s'agir de la photo dont lui avait parlé son informatrice, Candy Wilson. D'après l'infirmière, le véhicule que l'on voyait était probablement le pick-up de Holmes, le Chevrolet Tahoe, customisé. Mais elle se trompait. La photo montrait Heath Holmes en train de regagner une fourgonnette portant sur le côté l'inscription « Entretien de jardin et de piscine ». Ayant payé son essence, il revenait vers son véhicule avec un soda dans chaque main. Amber, la plus âgée des deux sœurs, se penchait par la vitre du conducteur main tendue. « Quand cette fourgonnette a-t-elle été volée ?» demanda Ralph.
« Le 14 avril, » répondit Yunel.
« Il l'a planqué jusqu'à ce qu'il soit prêt. Il s'agit donc d'un crime prémédité. »«
Oui, apparemment. »
Jenny intervint.
« Les filles sont montées avec lui ?»
Yunel haussa les épaules.
« Là encore, je ne veux pas rejeter la faute sur les victimes. On ne peut pas reprocher à deux enfants aussi jeunes de faire de mauvais choix. Mais cette photo laisse à penser qu'elles l'ont suivi de leur plein gré. » Au début, du moins. Madame Howard a confié au sergent Highsmith que son aînée avait l'habitude de faire du stop quand elle voulait se rendre quelque part, alors qu'on lui avait maintes fois répété que c'était dangereux.
Pour Holly, ces deux clichés de surveillance racontaient une histoire simple. L'inconnu avait vu l'employé de l'épicerie-bar refuser de servir les deux gamines et il avait proposé de leur acheter des sodas et des friandises un peu plus loin, à la station-service. Ensuite, il avait peut-être promis de les conduire chez elle, ou ailleurs, là où elle voulait aller. Un type sympa qui aide deux filles à faire l'école buissonnière. Après tout, il avait été jeune lui aussi.
Holmes a été vu ensuite, un peu après 18h,
reprit Yunel.
Au restaurant Waffle House, à la sortie de Dayton. Il avait du sang sur le visage, les mains et sur sa chemise. Il a expliqué à la serveuse et à la cuisinière qu'il avait saigné du nez. Et il est allé se nettoyer dans les toilettes. En ressortant, il a commandé un plat à emporter. Quand il est reparti, la serveuse et la cuisinière ont remarqué qu'il avait du sang dans le dos de sa chemise et sur les fesses également, ce qui décrédibilisait un peu son histoire, étant donné que chez la plupart des gens, le nez se trouve devant. La serveuse a relevé son numéro d'immatriculation et appelé la police. Ils ont identifié Holmes très facilement. Difficile de passer à côté de ses cheveux au burn.
Il conduisait toujours la fourgonnette quand il s'est arrêté au Waffle House, interrogea Ralph.
Oui, on l'a retrouvé abandonné sur le parking municipal de Regis peu de temps après la découverte des corps des deux fillettes. Il y avait énormément de sang à l'arrière, et les empreintes de Holmes, ainsi que celles des filles, partout. Certaines dans le sang. Là encore, la ressemblance avec le meurtre de Frank Peterson est frappante, saisissante même.
« À quelle distance de la maison de Regis a été retrouvée la fourgonnette ?» demanda Holly.
« Moins d'un kilomètre. Selon la police, il l'a laissée là, il est rentré chez lui à pied, il a quitté ses vêtements ensanglantés et il a préparé un bon repas pour maman Holmes. Ils ont repéré les empreintes presque immédiatement, mais il leur a fallu un ou deux jours pour affronter la bureaucratie et obtenir un nom.
Parce que Holmes était mineur la seule fois où il a été arrêté, pour s'être viré à bord d'une voiture volée, précisa Ralph.
Si, senior. Le 26 avril, Holmes s'est rendu à l'Institut Iceman. Quand la responsable, Madame June Kelly lui a demandé ce qu'il faisait là, alors qu'il était en congé. Il lui a expliqué qu'il venait chercher quelque chose dans son casier et qu'il en profitait pour rendre visite à deux ou trois patients. Elle a trouvé ça un peu bizarre, car si les infirmières disposent de casiers, les aides-soignants, eux, n'ont que des caisses en plastique dans la salle de repos. En outre, on explique bien au personnel, dès le départ, que le terme qui s'applique à la clientèle payante est celui de « résident ». Et Holmes, généralement, leur donnait des petits noms, en gage chaleureux qu'il était. Bref, parmi les personnes qu'il est allé voir ce jour-là, figure le père de Terry Maitland. Et la police a retrouvé des cheveux blonds dans sa salle de bain. Des cheveux dont le labo a déterminé qu'ils appartenaient à Jolene Howard.
« Quel heureux hasard !» ironisa Ralph. « Personne n'a suggéré qu'il pouvait s'agir d'un coup monté ?»
Devant l'accumulation de preuves, ils ont simplement supposé qu'il était négligent, ou qu'il cherchait à se faire prendre, répondit Yunel. La fourgonnette, les empreintes, les images de vidéosurveillance, les culottes des fillettes dans le sous-sol de la maison et, cerise sur le gâteau, l'ADN. Les prélèvements salivaires effectués durant la garde à vue correspondaient au sperme retrouvé sur le lieu du crime.
« Nom d'un chien !» dit Bill Samuels. « J'ai une sale impression de déjà-vu. »
« À une énorme différence près, » souligna Yunel. Heath Holmes n'a pas eu la chance d'être filmé pendant une conférence qui se déroulait au moment même où les filles Howard étaient enlevées et assassinées. Sa mère a juré qu'il n'avait pas quitté Regis et ne s'était pas rendu à l'Institut Iceman et encore moins à Trotwood. « Qu'est-ce qu'il serait allé faire là-bas » a-t-elle déclaré.
« C'est une ville naze, pleine de nazes. »
Son témoignage n'aurait eu aucune influence sur les jurés, dit Samuels. Si votre mère ne ment pas pour vous défendre, qui le fera? D'autres habitants du quartier l'ont aperçu pendant sa semaine de vacances, poursuivit Yunel. Il a tendu l'herbe chez sa mère, il a réparé les gouttières, il a peint le perron et aidé la femme d'en face à planter des fleurs. Le jour même où les petites Howard ont été kidnappées. Et puis, son pick-up customisé ne passait pas vraiment inaperçu quand il se baladait ou faisait des courses dans les environs.
Oh oui, demanda.
La voisine d'en face peut-elle témoigner qu'il se trouvait avec elle au moment où ces deux filles ont été tuées?
Sur le coup de 10 heures du matin, dit-elle. Ça ressemble presque à un alibi, mais il n'est pas en béton. Il y a beaucoup moins de kilomètres entre Regis et Trotwood qu'entre Flint City et Cap City. Pour la police, dès que Holmes a eu fini d'aider la voisine à planter ses pétunias ou je ne sais quoi, il s'est rendu sur le parking municipal et là, il a troqué son Tahoe contre la fourgonnette pour partir en chasse.
Terry a eu plus de chance que Monsieur Holmes, dit Marcy en regardant Ralph, puis Bill Samuels. Le premier soutint son regard. Le second en fut incapable. Mais pas suffisamment.
Yunel reprit. « J'ai une dernière chose, une autre pièce du puzzle, dirait Mademoiselle Gibney. Mais j'attendrai que Ralph résume l'enquête sur Maitland. Le pour et le contre. »
Ralph fut bref. Il employa des phrases concises, comme s'il témoignait au tribunal. Néanmoins, il insista sur la déposition de Claude Bolton, expliquant que Terry l'avait griffé avec son ongle en lui serrant la main. Après avoir évoqué la découverte des vêtements dans la grange de Canning Township, le pantalon, le slip, les chaussettes, les baskets, mais pas de chemise, il en revint à l'homme qu'il avait aperçu devant le palais de justice. Il ne pouvait affirmer que celui-ci avait utilisé la chemise que Terry portait à la gare de Dubrow pour cacher son crâne, probablement brûlé et chauve, mais cela lui semblait possible.
Il y avait forcément des caméras de télévision devant le tribunal, dit Holly. Avez-vous visionné les images ?
Ralph et le lieutenant Sablot échangèrent un regard.
« Oui, répondit Ralph, l'homme en question n'apparaît nulle part. »
Cette réponse provoqua une certaine agitation. Jenny tenait de nouveau le bras de son mari. Plus exactement, elle le serrait. Ralph lui tapota la main d'un geste rassurant, mais il observait la femme venue exprès de Dayton. Elle ne semblait pas incrédule. Plutôt satisfaite.